Donc, bon dimanche à tous. Je suis content qu'on soit réunis ce matin pour adorer et louer notre grand Dieu. Et ce matin, on continue la deuxième partie de notre série de deux messages sur le mariage et la sexualité selon la Bible. Donc, la semaine passée, on a pris le temps ensemble de regarder et d'aller s'ancrer profondément dans la réalité et la vérité qui nous est donnée, comme quoi le mariage vient de Dieu, qu'il a été donné dans Genèse au chapitre 2, et on sait qu'il a été donné avant la chute. Donc, c'est une bonne chose que Dieu donne avec un objectif précis. Et on a pris le temps la semaine passée de regarder ensemble comment le mariage est vraiment central dans le plan de Dieu pour montrer à l'humanité notre ultime alliance avec lui, parfaite, profonde, comblée. Et on a vu comment la chute dans Genèse 3 a brisé cette idée-là d'une alliance parfaite et comment maintenant, par une image imparfaite, on est appelé à chercher à glorifier Dieu par notre mariage. Et aujourd'hui, on va faire la deuxième partie qui est un petit peu plus croustillante. Et j'aimerais vous dire que ça a été un combat cette semaine pour moi. On dirait que l'ennemi voulait me déconcentrer dans toutes les facettes. Vous pourrez aller demander à Tommy ce qui nous est arrivé quand on est allé au chalet. On aurait dit que l'ennemi voulait que je ne sois pas capable de me concentrer, mais soyez sans crainte. On a livré un bon combat ensemble dans la prière et Dieu a préparé quelque chose et j'espère ce matin qu'on va pouvoir sortir d'ici avec des outils, avec la vérité profondément ancrée en nous que Dieu a créé notre sexualité, qu'elle est bonne et qu'il y a une façon pour les chrétiens de glorifier Dieu à travers ça. Et ce matin, ça va peut-être être inconfortable parce que, vous savez, souvent quand on parle de sexe, tout le monde est inconfortable. Et parfois, pour ne pas être inconfortable, bien, il y a toujours quelqu'un qui se lève et qui parle plus fort que les autres. Puis qui dit « Oh, ben allez, inquiétez-vous pas! » Puis là, tout le monde est plus mal à l'aise. Mais ce matin, ce n'est pas le but. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse aller s'ancrer profondément dans la parole de Dieu et qu'on soit capable de vraiment, littéralement, apprendre à quel point c'est bon et à quel point notre chair corrompue peut et doit glorifier Dieu par sa sexualité. Bon, on essaye de me couper. Donc, juste avant de se lancer ensemble dans la parole de Dieu, j'aimerais qu'on se lève en assemblée et qu'on prie. Remettre ce temps-là au Seigneur, parce que ça va être un sujet qui est très sérieux, très controversé, et je saute à pieds joints dedans. On m'a demandé de faire ça. Joël et Tony ont entendu parler. J'ai déjà fait des conférences comme ça. Mais ce matin, j'aimerais qu'on remette ce temps à Dieu, afin que lui puisse parler par son Saint-Esprit à nos cœurs et qu'on puisse tous sortir grandis. Alors, prions. Seigneur Jésus, ce matin, en assemblée, ici à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières, on te prie pour chacun de nos cœurs. On te prie parce qu'on va plonger ensemble dans ta parole, afin que tu nous parles sur un sujet qui est tellement épineux. Sur un sujet, Seigneur, qui peut et doit te glorifier, mais qui a été attaqué, Seigneur. Sur un sujet qui, malheureusement, est couvert d'une certaine honte, d'une certaine censure dans les églises. Et Seigneur, ce matin, ma prière, c'est qu'ensemble, par ton Esprit Saint, on puisse lui redonner sa place. On puisse, Seigneur, te remercier, te glorifier et faire, Seigneur, de nos mariages des endroits où tu es glorifié. Faire de nos chambres à coucher, de tous ces moments où on peut avoir cette alliance intime, cette relation intime, Seigneur, que ça puisse te glorifier, qu'on puisse le faire selon ta volonté et non selon ce que le monde veut, mais selon ce que toi tu veux, selon ton design, selon ta grâce. Seigneur, que tu parles à nos cœurs et que tous ceux et celles ce matin qui luttent, qui sont peut-être dans la honte, qui sont peut-être dans le questionnement pour tous les ados qui vont entendre, Seigneur, que tu puisses fortifier leur foi, fortifier leur entendement, qu'ils puissent, Seigneur, être fermes dans leur choix, qu'ils puissent se garder parce que tu es bon pour eux et tu as des plans pour eux. Et Seigneur, ce matin, on te remet toutes choses.
soit avec ma bouche alors que je vais parler, soit avec nos oreilles, nos cœurs. Et Seigneur, glorifie ton nom ici ce matin. Que l'Église soit une lumière pour toi dans notre région. Ces choses, on les a priées dans le nom, pour la gloire et par la puissance de Jésus dans nos vies. Amen.
Amen.
Alors, aujourd'hui, on va avoir un petit plan. Aujourd'hui, on va parler ensemble, on va avoir une belle petite introduction. On va avoir ensuite la théologie. Donc, qu'est-ce que la Bible enseigne sur le sexe? Comment est-ce qu'on peut baser nos vies sur ce que la Bible enseigne? On va regarder ensuite la réalité qu'on connaît, que le mariage, comme on a regardé la semaine passée, est une ombre des choses à venir, par le simple fait que l'Église est appelée l'épouse de Christ. Et donc, on doit comprendre que dans la parole de Dieu, le rôle époux-épouse a une connotation beaucoup plus profonde. Elle a un sens que nous devons faire nôtre afin d'être le meilleur mari ou la meilleure épouse qu'on peut être et glorifier Dieu là-dedans. On va regarder aussi les impacts de la corruption du sexe. Et plus j'étudie ce que la Bible enseigne, plus je comprends pourquoi notre monde va si mal. Parce que vous allez voir, j'espère que vous allez être capable comme moi, une fois qu'on va avoir passé à travers la théologie et les bases de la sexualité selon la Bible, vous allez voir comment corrompre cette chose-là, ce cadeau-là, ce don-là de Dieu, comment corrompre cette image des choses qui s'en viennent, vient littéralement détruire l'homme et la femme et le couple et l'idée d'une alliance. Et c'est pas pour rien que l'ennemi détruit et attaque constamment les couples. C'est pas pour rien que l'ennemi utilise nos corps sexuels pour nous faire tomber, nous mettre et nous garder dans la honte. Et on est vraiment devant les impacts. Et si j'étais l'ennemi, c'est là où j'irais travailler moi aussi. Parce que, vous allez voir, il y a une force profonde. Il y a une alliance, il y a un lien qui se crée à travers ça. Et quand on manque, et quand on fait n'importe quoi avec cette facette-là profonde que Dieu nous donne, on est détruit. Et ça prend des années et des années à se faire rebâtir. Et c'est seulement par la puissance de Jésus qu'on peut avoir des victoires sur ces facettes-là. On peut devenir très, très, très organisé, on peut devenir très défensif, on peut mettre plein de choses en place pour se protéger, mais seulement Dieu, en appliquant l'Évangile à cette facette-là de notre vie, peut guérir et va guérir les impacts qu'il y a. Et on va regarder ça dans le dernier point qui va être d'appliquer l'Évangile à ma sexualité, à moi. Bien, pas juste à moi, là, mais à chacun d'entre nous, bien entendu. Donc, on va commencer une petite introduction. Alors, un petit rappel, on a commencé la semaine passée, on a regardé comment le mariage est ancré dans Genèse au chapitre 2. Alors que les disciples questionnent Jésus, Jésus leur enseigne, « Ne savez-vous pas qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme? Il les fit, homme et femme, les mit dans le jardin et leur dit, « Voici l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » C'est la réponse que Jésus a donnée aux disciples alors qu'ils l'ont questionné sur le divorce, le mariage. Et on comprend que la réponse de Jésus était choquante parce que les disciples ont dit en réponse, si telle est la chose, à quoi bon se marier? Les disciples, les douze, ont dit, Jésus, t'es extrême. Est-ce que Jésus est extrême? Non. Mais on voit un peu cette idée-là. Et une des raisons pour laquelle, ce matin, je veux faire cette deuxième série-là, deuxième message dans cette série-là, c'est vraiment qu'il y a un manque d'information. Et il y a plusieurs personnes, chaque fois que j'enseigne sur le sujet, qui viennent me voir et disent, « Marco, ça fait des années que je suis chrétien, j'ai jamais entendu ça. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Personne n'en parle. » C'est normal. Parce qu'au Québec, les gens un peu plus vieux sont peut-être un peu chatouilleux de parler de ça. L'Église catholique a mis beaucoup d'emphase sur faire des enfants. C'est pour ça qu'on a des grands-parents avec des familles de 11, 12. Et le prêtre, il venait chez vous, puis là, si tu n'étais pas enceinte, tu faisais taper ses doigts. Et on a mis l'emphase même pendant un certain temps sur l'idée de dire, bon, ben un bon couple, c'est un couple qui a des enfants. Ou la sexualité, c'est pour procréer. Ou peu importe ce qu'on veut y mettre, et on devient très inconfortable en plus, parce que c'est quelque chose qui est privé. Hein? Personne n'entre dans notre chambre à coucher. On n'en parle pas. En tant que chrétien, et même jusqu'à un certain point, la sexualité est pratiquement démonifiée. Pratiquement, on n'en parle pas, et tout le monde a honte, mais tout le monde le fait, puis là, tout le monde se demande si c'est correct, puis tout le monde se demande comment faire. C'est pas ça que je vais vous donner ce matin. On va aller dans, vraiment ancrer cette réalité-là dans à quel point la sexualité a des impacts spirituels. Et j'aimerais vous dire ceci en introduction, et ça va être aussi ma conclusion. On a pris le temps la semaine passée de regarder comment une alliance est formée de plusieurs points, OK? Et on a vraiment toutes les cinq facettes, et on a parlé de ce qui est la clause de dépôt et la clause de renouvellement. Vous vous souvenez de ça? C'est ce qui vient sceller une alliance, et c'est ce qu'on fait afin de la renouveler. Alors, de dire, oui, je continue à rester dans cette alliance. Et on a regardé ensemble comment, pour ce qui est du mariage, aux yeux de Dieu, la sexualité, consommer le mariage, avoir des rapports une fois marié, est ce qui cause le sceau. C'est ce qui vient fermer l'alliance. C'est ce qui vient qu'on est entré dans l'alliance et je prends cette personne-là pour être mon épouse ou mon époux, seulement lui, comme Dieu, lui, est le seul vrai Dieu et qu'il veut entrer en alliance avec nous. Et le sceau que nous avons, c'est l'Esprit-Saint en nous. Et on est scellé par Dieu. Et on entre en relation avec Dieu. Et on est tous prêts à accepter les mots de Paul. Et c'est là où je vous encourage à tourner dans votre Bible, dans Éphésiens au chapitre 5. Et on va commencer au verset 29. On a parlé la semaine passée des rôles de l'homme et de la femme. Un petit peu, on a regardé ensemble comment l'homme doit être un leader, doit être le chef, et comment la femme doit rester sous la protection ou le leadership de son mari, et comment dans cette relation-là, homme-femme-mariage, l'homme est responsable. Là, il y a des hommes qui m'ont dit, « Marco, tu m'as mis dans le trouble. » C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. OK? Parce que l'homme est responsable de ce qui se passe. Il est responsable de prendre les devants, prendre les blâmes, de l'idée, de vraiment de mettre sur pied un contexte qui va permettre à sa femme de s'épanouir, à ses enfants de s'épanouir. Et s'il y a manquement, Dieu demande des comptes à l'homme, comme on a vu dans Genèse chapitre 3. Après que Ève ait pris le fruit, qu'elle ait été convaincue, qu'elle ait été trompée par Satan, et Dieu est allé voir qui? Adam. Dieu a dit, « T'es où? Qu'est-ce que tu faisais? » Tu étais en train de faire quoi? Donc, le leadership masculin, c'est protéger, garder. Et Dieu demande des comptes aux hommes. Et les hommes n'aiment pas entendre ça. Les femmes aiment ça parce qu'elles se tournent de bord et disent, c'est de ta faute. Mais ce qu'on veut regarder ensemble ici, c'est comment les relations sexuelles aux yeux de Dieu, consentantes ou non, sont un sceau, viennent clore un accord, sceller une alliance. Et pour chaque relation, chaque transaction sexuelle que l'homme ou la femme a, vient avec tout le lot qui est avant. Toutes les demandes, tout ce qui est inclus dans une alliance maritale. Et ce que Dieu enseigne, c'est que mieux vaut pour un homme de ne pas faire de vœux que de les briser. Et une des raisons pour laquelle le monde va si mal, c'est que combien de personnes chaque jour, sans le savoir, entrent en alliance, brisent une alliance et s'en vont. Et on va regarder ensemble un petit peu plus tard à quel point Dieu nous a créés
pour qu'une alliance complète et parfaite dans les liens du mariage transforme non seulement notre corps, mais notre esprit, nos pensées, notre cerveau, nos hormones, et comment sortir du cadre biblique vient détruire profondément qui nous sommes à la base et vient être un obstacle à notre adoration et vient corrompre le don que Dieu nous donne de la sexualité ensemble. Parce que c'est bon, et je suis persuadé que si on fait un sondage ici, quel couple marié veut qu'il n'y en ait plus parce que c'est trop compliqué, personne ne lève la main. S'il y en a qui lèvent la main, il y a d'autres problèmes qu'on va devoir aborder, mais on n'est pas là pour parler ici. J'aimerais vous dire que à cause de ces choses-là, on doit réaliser ensemble que l'engagement que nous prenons lors d'un rapport sexuel transcende le physique. Le monde vous enseigne que c'est physique. Donc, pour éviter les conséquences, bien, protège-toi. Puis, sois consentant. C'est pas mal ce qu'ils enseignent dans les écoles secondaires. Ils vont vous apprendre à mettre un condom. C'est pas mal ça. Après ça, sky is the limit, là. Et j'aimerais qu'ensemble ce matin qu'on puisse réaliser que l'engagement, la sexualité transcende le physique, elle a des impacts profonds au niveau de notre spiritualité, de notre personnalité, de notre personne. Et j'aimerais vous dire que le sexe concerne Dieu. Le sexe concerne votre relation avec Dieu en premier. Et comme on vit dans un monde qui rejette Dieu, c'est normal que le monde aille un peu n'importe comment. C'est normal qu'on entende parler de plein de choses. Parce que justement, Dieu a un plan pour la sexualité dans le mariage. C'est pour ça qu'on a commencé par le mariage, pour ensuite aujourd'hui parler de la sexualité. Alors, voici les points qu'on va regarder ensemble pour la théologie du sexe. C'est un moyen de sceller l'alliance du mariage. Donc, c'est une façon de dire, en fait, au Québec, ce n'est plus le cas. Donc, il y a quelques années, vous étiez capable de fournir une preuve qu'il n'y avait jamais eu consommation du mariage, qu'il n'y avait jamais eu de rapport, vous n'étiez pas marié. Vous n'étiez pas considéré comme marié aux yeux de la loi. Les choses ont changé parce qu'il y a eu de l'abus, mais aux yeux de Dieu, ça reste encore la même chose. Donc, le mariage, en fait, la sexualité est un moyen de sceller l'alliance du mariage. C'est un moyen de sceller mon engagement envers une autre personne. Et donc, est-ce qu'on prend un engagement, une alliance à la légère? Non. Il y en a des exemples dans la Bible de gens qui ont pris des alliances à la légère et ça leur a coûté très cher. Simplement, vous donner une idée de Josué, alors qu'un jour, il était à la croisée des chemins, il a rencontré un peuple qui s'était déguisé. Ils ont menti, ils se sont déguisés avec du linge brisé, du pain rassis. Et là, ils sont venus voir Josué, puis ils ont dit, « On est nous aussi comme, on a les ennemis communs, est-ce que tu veux faire alliance avec nous? On a besoin de ta protection. » Et là, ils ont fait alliance ensemble, et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Bien là, ils ont montré que finalement, ils ne venaient pas de super loin, puis ils n'étaient pas. Non, ils faisaient partie du peuple ennemi. Et savez-vous quelle bataille a coûté le plus cher au peuple d'Israël? C'est la bataille pour aller défendre ce peuple-là qui a menti, puis qui est entré dans l'alliance par la porte en arrière, qui a trompé pour être sous la protection. Et même s'ils ont fait ça dans le mensonge et dans la tromperie, Dieu honore sa parole. Donc, s'ils sont entrés en relation avec le peuple d'Israël, Israël est allé les défendre et ça leur a coûté 20 000 soldats. Parce que Dieu ne prend pas d'alliance à la légère. Ça devrait être la même chose pour nous. La deuxième partie de la théologie du sexe, c'est un moyen de plaisir mutuel. Et ça, vous trouvez ça, encore une fois, dans Éphésiens, dans Corinthiens aussi, où Paul dit, « Donnez-vous l'un à l'autre vos devoirs conjugaux. » Et là, Corinthiens 1, Corinthiens 7, ça vient tout bouleverser l'idée générale de sexualité qu'il y a au Moyen-Orient dans le temps de Jésus, dans le temps de Paul. Pourquoi? Parce que c'était reconnu que le plaisir n'avait pas besoin d'être mutuel tant que l'homme est satisfait. C'était ça l'idée du point de Paul ici dans 1 Corinthiens, que l'un à l'autre se donne. Et là, on rentre dans une théologie d'égalité, de complémentarité, comment les deux, on est appelés à prendre soin de l'autre. Donc, prendre soin des besoins de l'autre, c'est ce que Paul est en train d'enseigner. Parce que parfois, l'homme veut être physique ou la conjointe veut être physique, et là, l'autre, lui, il ne file pas, il n'est pas dans son assiette, ça ne tente pas. Et là, on est appelé à s'occuper des besoins de l'autre, les besoins mutuels, s'occuper des devoirs maritaux. Et ce n'est pas seulement des relations physiques, c'est vraiment, ça englobe toute chose. Et le mot-clé ici, c'est mutuel. Est-ce que la sexualité peut être expérimentée seule? Malaise. Personne ne veut répondre. Si on regarde ce que j'ai écrit, la sexualité est un moyen de plaisir mutuel. Est-ce qu'il y a plaisir mutuel lorsque je suis seul? Non. Et c'est un appel à prendre soin de l'autre, peu importe ce qu'il y a. Et là, on tombe dans l'idée du mariage, comment on est appelé à, un, s'attendre, deux, à faire les choses dans le bon ordre, donc sceller le mariage une fois que le mariage a eu lieu, pas avant. Et ensuite, on est appelé à découvrir l'autre personne, ce qui lui plaît, ce qui la dérange, ce qui le rend ça agréable pour l'autre personne ou non. Et simplement vous donner cette réalité-là que dans l'étude, j'ai vraiment été comme frappé, mais ça explique plusieurs choses dans ma vie, peut-être dans votre vie aussi. Mais vous savez que Dieu nous a créés avec des corps sexuels. Donc, on est tous appelés à avoir des pulsions. On a tous ce qu'on appelle des hormones qui sont produites dans notre cerveau. OK? Tout le monde est d'accord avec ça? Tout le monde a des hormones dans le cerveau. OK? Et ce qui arrive, c'est que dans les rapports sexuels, il y a des hormones qui sont créées. Et c'est des hormones qui ont des facettes spéciales. Bon, bien sûr, il y a la dopamine qui est l'hormone du plaisir et de la récompense. Donc, c'est le fun et on a une récompense, on crée de la dopamine, ça donne de l'énergie, ça stimule le désir d'être avec l'autre personne. Mais on a aussi, en fait, pas on, là, mais les scientifiques ont aussi observé que chez la femme, elle sécrète des hormones de l'attachement, de l'oxytocine. Ça lui permet de s'attacher et d'aimer profondément. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que l'homme en produit, mais vraiment moins. Mais la femme produit beaucoup de ces hormones-là. Et donc, la femme s'attache énormément dans les rapports. Sans être pleinement capable de comprendre ça, on voit aussi que même dans l'action physique, Dieu met sur pied une façon qu'on s'unisse, qu'on s'attache. L'oxytocine est une hormone qui nous permet de nous attacher les uns aux autres. Ensuite, on a aussi ce qui est amené un peu, les endorphines. Les endorphines, c'est ce qui fait qu'on est calme, relax. Et là, le plus comme intéressant là-dedans, c'est que cette idée-là d'endorphine et tout ça qui vient nous calmer, nous relaxer, bien, trouve son apogée dans l'orgasme, donc la fin de ce que Dieu a donné, l'espèce de sensation euphorique que là, on est juste bien. Et là, on voit tous des beaux petits clins d'œil que Dieu nous donne dans même notre corps physique. Parce qu'on pourrait se poser la question, Dieu, tu nous as créés avec des désirs, tu nous as créés sexuels, tu nous as créés capables de vivre ces choses-là, mais pourquoi c'est tellement difficile? Parce que sans Dieu, on est contrôlé par nos hormones. Et on peut pousser un petit peu plus loin. Vous savez, dans la parole de Dieu, on a ce qu'on appelle la première mention, qui vient établir les choses, qui vient établir, quand Dieu en parle en premier, on va s'ancrer dans cette réalité-là. Mais vous savez que la première fois que vous faites n'importe quoi dans votre vie, votre cerveau fait un lien, OK? Il crée un lien, un genre de chemin entre vos cortex, gauche-droite, demandez-moi pas d'expliquer ça. Et dans cette idée-là, c'est le premier chemin que vous allez prendre devient la référence. Le premier chemin qu'on prend dans peu importe ce qu'on fait, que ce soit marcher, que ce soit écrire, que ce soit conduire un auto, que ce soit apprendre à parler, le premier chemin qui est pris va toujours être le plus fort. Et ça se ressemble tout le temps. Okay? Dans tous les cerveaux, on prend tous environ le même chemin. Sauf que dans l'apprentissage ou dans la vie sexuelle, voici pourquoi sortir du cadre, que ce soit voulu ou non, qu'on soit consentant ou qu'on soit victime, sortir du cadre fait que la première fois, notre cerveau prend un chemin qu'il ne pourra peut-être plus jamais prendre. Et là, on devient confus. On a créé toutes ces hormones-là, la dopamine, l'oxytocine, l'endorphine, et peut-être qu'on ne les voulait même pas. Peut-être qu'on est maintenant victime de notre propre corps, victime du péché des autres, ou d'un péché d'une mauvaise curiosité, d'une mauvaise décision. Et on est changé. On est vraiment brisé. Donc, pour retrouver cette sainteté-là que Dieu nous donne à travers le mariage, dans le plaisir mutuel, on doit réapprendre et on doit appliquer l'Évangile à cette facette-là de notre vie, ce qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, pour continuer dans la troisième, on est vraiment ici en train de parler de sceller l'alliance. Donc, le sexe est un moyen de sceller l'alliance du mariage. C'est un moyen de plaisir mutuel, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas connaître seul. Et c'est un clin d'œil, encore une fois, comme on a dit, à la réalité que Dieu est un Dieu trinitaire. Les trois égales, parfaits, toujours en parfaite relation, et qui expérimentent les choses à trois. Ils sont relationnels, comme nous sommes relationnels. Et comme le mariage est quelque chose qui nous unit, eh bien, la sexualité devrait être la même chose, mutuelle. On le vit ensemble. Une expression de l'amour aussi dans le mariage, c'est aussi la réalité que je vais exprimer à mon conjoint, mon amour, ma fidélité. Comment je vais être là pour elle? Je vais l'aimer, je vais en prendre soin. Et dans le mariage, ça ramène cette idée-là. À chaque fois qu'il y a relation, il y a le renouvellement. Je t'aime encore. Je veux rester avec toi. Je continue à avancer. Je vais faire les pas qu'il faut pour avancer. Et plus il y a de renouvellement, plus normalement on est capable de dire « OK, je continue ». Et c'est ça la clause de renouvellement. Comment on est appelé? C'est pas à tous les 20 ans ou 25 ans, ou je sais pas quand est-ce qu'on fait ça, où là on renouvelle nos vœux devant témoins. Non, à chaque fois qu'il y a relation dans un couple marié, c'est une expression de l'amour, de la fidélité, de la bonté de Dieu. Et je continue, je veux être avec l'autre personne. Aussi, un autre point de la théologie du sexe, c'est la création d'une nouvelle vie. Donc, conséquence, et là j'utilise le mot très large, une conséquence normale d'un couple qui a des relations sexuelles saines et normales, c'est qu'ils vont avoir, Dieu voulant, des enfants. Ils vont créer la vie. Ils vont avoir des enfants qui courent un peu partout. Et là, on a créé d'autres problèmes. Mais j'appelle ça un problème pour vous faire rire, parce que la Bible appelle ça une bénédiction. Et vous savez, c'est une des premières choses qui a détourné Ève du plan de Dieu. Et si vous allez dans Genèse au chapitre 4, on voit que Ève ne se soucie presque plus d'Adam, elle se soucie de ses enfants. Ève appelle son premier Caïn, qui est comme « l'Éternel m'a permis de créer un homme ». Ensuite, elle nomme le deuxième Abel. Et là, Abel, je ne me souviens plus de la traduction de son nom, malheureusement, mais vraiment, son focus, son centre d'attention n'est plus son mari, ça devient ses enfants. Et quand elle perd Abel, elle est inconsolable. Et Dieu lui donne un autre fils. Et c'est quelque chose qu'on peut voir dans la Bible, comment, malheureusement, parfois dans notre vie, on a ce réflexe-là peut-être de « si ça ne va pas bien, bien, je vais me concentrer sur mes enfants. Ça ne va pas bien dans mon couple. » C'est correct, je vais m'occuper de mes enfants. Puis là, quand il n'y a plus d'enfants, je vais m'occuper de mes petits-enfants, j'espère. Puis là, si j'en ai pas, ben, je vais m'occuper de mes problèmes. Puis là, ça pète. Mais vous voyez cette idée-là, dans l'ordre normal des choses, un couple marié est normalement, et ça peut arriver des fois qu'on ne peut pas avoir d'enfants. Et ça, c'est une facette du mariage qu'on ne pourra pas vivre, mais c'est quand même quelque chose que Dieu donne dans la normalité. Et le dernier point, c'est une image, une ombre des choses à venir, c'est que les relations sexuelles sont une image de notre relation éternelle avec Christ. Non, notre relation éternelle avec Christ n'est pas sexuelle. Mais comme dirait John Piper, Dieu a créé certaines choses et on est incapable de les décrire avec des mots. On est incapable et donc on a créé la musique et là on chante. On a créé des choses en tant qu'être humain afin d'essayer d'exprimer l'excellence de ce que je vois. Et j'aimerais vous faire réaliser que on est tous capables d'accepter ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 5 qui dit « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. » Christ et l'Église sont l'accomplissement d'une alliance maritale, parce que c'est l'exemple, c'est l'expérience que Dieu nous donne afin qu'on puisse vraiment pleinement essayer de comprendre ce qu'on va avoir. Et comme les boucs et les brebis, les taureaux qui étaient sacrifiés afin de couvrir les péchés ne sont qu'une faible petite chose face au sacrifice de notre Seigneur Jésus parfait à la croix, autant faible est la capacité que nous avons de comprendre le plaisir, la grâce et la bonté de Dieu qu'on peut comprendre à travers la sexualité. Vous me suivez? C'est un cadeau. Dieu dit, voici ce que vous avez de plus intense. Vous ne serez pas capable de le décrire. Ça fait des millénaires que les hommes écrivent des chansons là-dessus, que les femmes aussi. Vous allez chercher ça, ça va vous changer à l'intérieur. Vos hormones vont changer, votre capacité de comprendre va changer, vos relations vont changer. Plusieurs choses vont changer. Voici, c'est ce que j'ai de plus intense à vous donner. Dans votre mariage, votre sexualité va être votre plus haut, devrait en fait être votre plus haut plaisir, votre plus haute capacité à vous accrocher à une autre personne. Ça devrait être ce qui représente notre relation éternelle, qui, elle, va être encore meilleure, plus grand, plus haut, pas physique. On sait, Dieu est esprit. Mais ce qu'on vit, ce qu'on peut vivre et la grâce que Dieu nous fait, c'est dans notre mariage, on représente un petit peu et à travers cette sexualité-là que Dieu nous donne, on peut exprimer avec joie que voici, je crois en Jésus, je crois au salut, je crois que Dieu veut cette relation-là avec moi et en ce moment, il me permet, dans sa grâce, de goûter un petit peu au plaisir et éternellement, je vais en avoir des plus grands. Merci Seigneur. Amen. Comprenez-vous ce que je veux dire? Le sexe est à propos de Dieu. Ma foi s'exprime dans ma sexualité et pas en dehors. Et là, la sexualité, c'est dans ma chambre. Et puis là, quand je suis chrétien, ben là, à l'église, on n'en parle pas, bien sûr. Mais Dieu a fait qu'on est créé profondément pour vivre ces choses-là. Et maintenant, on peut le glorifier à travers ça dans nos vies. Donc, vous réalisez qu'on est facilement capable de passer par-dessus des vérités. Je suis persuadé qu'ici, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont lu cette réalité-là, que l'Église est l'épouse de Christ. Et voici, Christ vient chercher son épouse comme un grand héros sur son cheval. Il vient et là, il clame. Désolé mon anglicisme, mais il vient et il requiert et il demande sa femme et là il l'épouse et il l'amène avec lui dans des lieux meilleurs. Okay? Tout le monde a déjà lu ces vérités-là. Ici, j'en suis persuadé. Êtes-vous prêt à réaliser maintenant que cette image-là trouve tout son sens quand on voit le plaisir qui est donné, que l'époux trouve dans aller chercher son épouse? Je suis persuadé ici que toutes les couples mariés comprennent cette réalité-là. L'excitation, le bonheur, le plaisir de dire « je vais finalement pouvoir goûter ». Et la parole de Dieu nous enseigne, si on lit dans Cantique des Cantiques, à combien à quel point c'est bon et normal et comment Dieu nous a créés afin de désirer l'autre personne, afin que nous soyons capables de vivre quelque chose de profond, de heureux, de plaisant avec une autre personne. Et tellement qu'il y a des gens qui allégorisent complètement le livre et qui voient ça comme étant une image de Jésus et de l'Église. Je crois qu'il y a dans le livre de Cantique des Cantiques beaucoup de pratiques, mais on voit vraiment cet appel-là, comment est-ce que Dieu nous enlève une certaine culpabilité parce qu'on est appelé à satisfaire nos désirs dans notre épouse ou notre époux. Et seulement lui. Et là, je blaguais la semaine passée, j'ai dit, il n'y a pas personne ici qui est marié n'a le droit d'avoir un type. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, moi j'aime bien les blondes, j'aime les grandes, j'aime les petites. Et là, on peut devenir très détaillé. Et la réalité de la parole de Dieu, c'est ceci. Ton épouse est blonde, t'aimes les blondes. Ton épouse est brunette, t'aimes les brunettes. Elle est grande, t'aimes les grandes, elle est petite, t'aimes les petites. Elle gagne 5 pieds, maintenant, t'aimes les grandes. Elle change sa couleur de cheveux, maintenant, t'aimes cette couleur de cheveux-là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que mon mariage représente ma foi. Mon mariage représente ma relation avec Dieu et ma fidélité, ma capacité à chercher tous mes désirs dans l'autre personne vient glorifier Dieu. Dieu m'a créé avec des désirs et il me dit, voici, je veux que tu les combles là. Je veux que tu sois prêt, je veux que tu sois pur dans ta pensée parce que toutes tes pensées, tous tes désirs, tout ce que tu es, ce que tu recherches, ce que tu veux, va être là. Et on a parlé d'hormones. Vous savez que dans la vie de couple, on peut faire toutes les mêmes choses, deux journées différentes, et pas avoir les mêmes résultats pantoute. Non, oui. Oui, hein, tout le monde est, je ne sais pas, tout le monde est gêné, je pense. Mais on peut appuyer sur tous les pitons, savoir ce qui fait plaisir à notre conjoint et conjointe, et puis là, cette journée-là, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. On a quelque chose sur le cœur, on a le cœur lourd, on ne va pas bien. Il y a quelque chose, et là, on a besoin d'autre chose, on a besoin de parler. Et il y a des couples qui vivent beaucoup de frustration parce que nous sommes liés, pas seulement physique, mais émotionnel. Et comme on réalise et on comprend que le sexe est une question d'hormones au niveau physique, eh bien, on doit comprendre que cette idéologie-là, qui est très présente, et on va en parler dans les impacts de la corruption du sexe, mais c'est cette idée-là que vagabonder à gauche puis à droite, tu peux entrer en relation avec quelqu'un qui, cette journée-là, ses hormones sont à zéro puis une barre, puis là, tu vas être pourri, puis là, tu viens de scraper ta soirée, selon le monde, mais le lendemain, ça aurait pu être d'autres choses. Et là, on vient à cette idéologie-là de performance que le monde nous enseigne qui vient littéralement détruire l'idée divine que Dieu donne. Donc, on est en train de parler de que nous sommes, la sexualité est une ombre des choses à venir parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Réalisez-vous que comme Dieu a créé Ève à partir d'Adam. Dans Genèse au chapitre 2, chacun d'entre nous ici, nous sommes membres de l'Église parce que nous avons été sauvés par le corps brisé de Christ. Nous faisons maintenant partie de son corps brisé pour nous. Donc la même image qui s'applique à Adam et Ève, je fais maintenant partie du corps de Christ parce que son corps a été brisé. Voyez-vous l'image à quel point ça peut être profond? Je suis maintenant, est-ce que je vais haïr mon propre corps? Non, personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. On est vraiment appelé ici parce que nous sommes, au verset 30, Éphésiens 5, 30, membres de son corps. On fait partie de cette réalité-là qui est l'Église. Ensemble, Dieu a pris deux choses qui sont, en fait, Dieu a pris l'homme parfait, le second Adam, Christ, afin de créer à partir de lui son épouse, l'Église. Et maintenant, avec lui, nous serons pour l'éternité capables de pleinement jouir des plaisirs de le suivre. Et ce ne sera pas sexuel, ce sera divin. Regardez ici, on est appelé à devenir une seule chair par l'action divine. Donc oui, dans Dieu a donné une image physique. Lors des relations sexuelles, nous devenons une seule chair. C'est pourquoi nous ne croyons pas à l'homosexualité. Pourquoi? Parce que Dieu a fait les choses homme, femme, et il nous dit le but de la sexualité, c'est que vous redeveniez une seule chair, que vous soyez un exemple de l'Église. Vous êtes un exemple de Christ, de l'Église qui forme une seule chair. Vous êtes un exemple de l'alliance parfaite en Dieu, scellée par la transformation divine. L'Église est appelée l'épouse, on est tous d'accord avec ça. Le problème, c'est qu'on arrête là et on ne se rend pas après le mariage. On est l'épouse, oui, Jésus vient nous chercher, oui, mais... C'était l'épouse, ça veut dire qu'il y a consommation et tout. Et là, on ne parle pas d'une sexualité au niveau de l'Église et Christ, mais on parle vraiment de cette image-là que Dieu nous donne, que nous, on puisse comprendre. Parce que sinon, comment est-ce qu'on pourrait comprendre les bénédictions et les gloires d'être avec Dieu pour toujours? Ce serait difficile. Et c'est ce qu'on voit au prochain point. Le sexe est l'expression ultime du plaisir, de l'alliance et de l'amour disponible en Dieu. Et sachez que si, à moins que vous preniez des drogues illicites autour, ça vient débalancer votre cerveau, on n'est pas là pour parler de ça, mais à moins que vous preniez des drogues ou des substances externes, ce que votre corps peut produire par lui-même va trouver son apogée dans la sexualité. Pas ailleurs. À moins que vous preniez des choses externes. Là, ça vient vraiment bousiller votre cerveau. Et là, on parle de dépendance, on parle de plein de choses qui ne sont pas belles. Mais voyez le dernier point. Comme les mots sont manquants pour décrire l'amour de Dieu, dans sa sagesse, Dieu nous a donné une expérience sensorielle ultime. Parce que par mes mots, et combien de fois on le chante, les mots me manquent, je suis incapable de... Dieu nous a donné la sexualité dans les liens du mariage, dans le cadre qu'il donne, afin que ce soit un témoignage profond, une image correcte, mais oh, qui faillit. Elle ne satisfera jamais. On ne sera jamais satisfait dans ça, même si on vit une belle sexualité, parce qu'elle est l'image, l'ombre d'une chose à venir, qui est cette relation-là, personnelle, éternelle, mutuellement plaisante entre moi et le Créateur de l'univers. C'est le rôle et le but de la sexualité. Et tout chrétien se doit de protéger cette réalité-là. Comment je suis appelé à être un bon mari parce qu'à travers être un bon mari qui prend soin de ma femme, qui cherche ses désirs à elle, qui va s'oublier moi-même parce que j'ai l'attente que ma femme va faire la même chose pour moi. Et là, je vais m'oublier, je vais tout donner comme Christ s'est donné pour l'Église. Christ a abandonné lui-même tout ce qu'il était. Si vous allez dans Colossiens, on voit que Jésus a abandonné la gloire qui était la sienne, qui a pris un corps semblable au nôtre et qui est venu mourir à la croix pour nous. Ça, c'est l'amour de Christ. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et autant ça, c'est plus grand que les sacrifices, eh bien, autant ce qu'on va vivre est plus grand. Mais voici notre fardeau. On doit protéger cette image-là que Dieu nous donne. On doit ancrer notre sexualité dans notre foi. On doit faire confiance à Dieu. Et là, on voit vraiment des choses qui sont ultimes. Comme je ne suis pas capable d'exprimer pleinement, Dieu m'a donné une expérience sensorielle que je peux aller et me rappeler avec mon épouse. Je peux louer Dieu, je peux prier, je peux... Et devant Dieu, c'est bon, c'est recherché. Va vers ton épouse, ne la quitte pas. Paul dit la même chose. Ne vous séparez pas les uns des autres. Et on va dans Cantique des Cantiques qui dit « Je cherche mon époux, que l'époux vienne, qu'il mange de mon fruit, que l'époux vienne, qu'il puisse avoir du bon temps, qu'il vienne et qu'il me prenne, que je puisse prendre. » Et il vient. Et là, on a des images. On a vraiment une célébration du don de Dieu dans le couple. Amen?
Amen!
Mon ami. On a vraiment cette idée-là de célébrer ces choses-là. Et voici pourquoi c'est tellement difficile pour nous. Genèse chapitre 2, où Dieu inclut toutes ces choses-là et donne ça à l'homme, on en a parlé la semaine passée, arrive avant Genèse 3. Qu'est-ce qui arrive à Genèse 3? La chute. Le péché entre. Et quelle est la première chose que Adam et Ève réalisent après avoir mangé du fruit? Ils sont nus. On est maintenant incapable d'avoir une pleine relation les uns envers les autres sans hypersexualiser l'autre. Et on a perdu ça. Donc, c'est honteux. Pourquoi est-ce qu'on vit tellement de honte et de lutte avec ça? Parce que Genèse 3 nous le dit, on est honteux face à notre sexualité. Et cette sexualité-là, elle est, j'ai juste le mot en anglais, « redeem », aidez-moi. Rachetée, merci. Elle est rachetée dans le mariage. Et encore plus, elle est rachetée à la croix par Christ, qui dit « Voici tout ce que vous vivez en ce moment, vos luttes, vos défis, les bonnes choses comme les mauvaises ne sont que passagères. C'est une ombre. » Avez-vous déjà été blessé par une ombre? Non. Ce qui blesse, c'est la balle qui fait ombre, qui vous rentre dedans. Mais Dieu, Jésus nous enseigne vraiment que « Voici ce que je vous ai donné, c'est pour que vous soyez capables d'avoir une petite idée de ce qui s'en vient, une ombre des choses à venir. » Mais c'est normal que ce soit difficile à comprendre parce que la société et l'homme corrompent la sexualité. C'est pas long. Genèse chapitre 4, on a un homme qui a pris deux femmes. Chapitre 4, on est tombé au chapitre 3. Chapitre 4, vous voyez comment on est bon? On a un homme qui a pris deux femmes. Genèse chapitre 6, bon, il y a peut-être une couple de milliers d'années qui ont passé entre les deux. Je n'ai pas fait les maths. Chapitre 6, ça dit que maintenant, les femmes acceptent de faire un peu n'importe quoi. On a les Néphalim qui sont nommés. On a la corruption totale de la sexualité et de la race humaine. Ça a pris 6 chapitres. Et il y a une réalité qui est là, c'est que peut-être que nous, on n'est pas... J'aimerais vous dire ceci. Peut-être que ici au Québec, dans l'Amérique du Nord, on n'est pas conscient à quel point les relations sexuelles unissent et scellent un deal. Comment je dis ça comme il faut? Ça vient vraiment sceller quelque chose. On entre en alliance par les relations sexuelles. Ce qui veut dire que combien de personnes se promènent chaque jour avec 3, 4, 10, 12, 25, je ne sais pas, alliance brisée, et sont constamment sous le poids de la culpabilité divine. Comment de personnes se briment eux-mêmes? On a parlé, il y a des impacts sur notre cerveau, notre corps, tout ce qu'on est, la création d'hormones. Si j'ai créé des hormones d'une façon désagréable avec quelqu'un d'autre, puis que là, je ne la revois plus jamais parce que j'ai fait un one night, aucune capacité de rétablir la chose. Je suis brisé émotionnellement, peut-être physiquement, mais aussi cérébralement. Débris émotionnels, combien de personnes se font utiliser parce qu'ils vivent une sexualité corrompue? Et là, on se sent tellement mal. On est brisé. Est-ce qu'on va être capable un jour de faire confiance à nouveau? Est-ce qu'on va vivre ces choses-là? Est-ce que j'ai été utilisé? Et là, avec tous ces impacts-là, et on en voit, il y a des conséquences de l'impact de la corruption du sexe. Combien de bébés meurent chaque jour? Parce que quelqu'un n'a pas contrôlé sa sexualité. Combien de personnes tombent en dépression parce qu'ils n'ont pas contrôlé leur sexualité? Combien de couples sont aujourd'hui incapables d'avoir des enfants parce qu'ils n'ont pas contrôlé leur sexualité? On voit beaucoup de bris. Et souvent dans l'Église, on est porté à parler « Faites attention, protégez-vous, faites, allez pas là, le sexe c'est mal, wesh caca, je ne sais pas comment le dire autrement. » Et on est enseigné à avoir peur de ça jusqu'à ce que, et là, je vous le dis, je vais vous donner un petit témoignage rapidement. Adolescent, on est une vingtaine dans la jeunesse. Et sur les 20, il en reste 3. Et ce qu'on s'est fait enseigner longtemps, c'est que ben la sexualité, c'est mal, la sexualité, c'est pas le fun, il faut être marié. Et puis là, les gens autour de moi, mes amis qui se disaient chrétiens, ont fini par quitter. Et là, ils l'ont essayé. Et savez-vous ce qu'ils ont dit? À plusieurs reprises, j'ai eu deux témoignages de ça, donc plus qu'un. Les deux témoignages étaient ceci. À l'Église, ils nous ont menti. C'est pas vrai. C'est la même chose. Les gens disent « Ah, prenez pas de la drogue, c'est mal, ça va vous détruire. » Ils prennent de la drogue, ils ont du fun. Gang de banteurs à l'Église. Et c'est la même chose dans leur sexualité. Mais savez-vous quoi? Après avoir goûté, je vais l'appeler comme ça, aux fruits défendus, ça ne leur tentait plus d'entendre parler de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que personne ne leur a dit que c'était bien, que c'était bon, que c'était un don de Dieu et que Dieu avait des plans pour eux, pour leur sexualité, afin de se garder pour une personne que Dieu allait mettre sur leur chemin, afin de glorifier Dieu dans sa personne, afin d'être une image de ce que Dieu avait fait pour eux. Et ça, on peut seulement le vivre si on vit pleinement la régénération de Jésus, si on s'abandonne à lui à la croix. Et c'est là la base de la sexualité chrétienne. On s'abandonne à Jésus, on lui fait confiance et on suit ultimement ses demandes, sa façon de faire, qui a été corrompue. Et là, on voit que l'ultime destruction, si je prends l'image la plus forte que Dieu m'a donnée afin de définir quelque chose, qui est dans ce cas-ci la perfection et l'ultime bien-être d'être avec Dieu, je prends cette image-là que Dieu me donne, qui est imparfaite et qui ne me satisfera jamais, mais qui est quand même bonne et qui va m'amener plein de beaux souvenirs, plein de beaux moments, et je la prends et là, je la détruis. Qu'est-ce qui arrive après? Je viens de détruire le témoignage complet. Et si personne parle de la profondeur, de la beauté de ce que Dieu nous a donné, est-ce que l'Église va être capable de tenir tête au monde? C'est important de remettre les choses à leur place. Notre sexualité a des impacts. Et une bonne sexualité dans votre mariage va vous faire grandir, devrait vous amener à grandir dans votre foi. Pourquoi est-ce qu'on dit « ne vous mariez pas avec les incroyants » Parce que vous devriez être capable de prier ensemble, d'avoir des rapports sexuels agréables à Dieu, agréables l'un pour l'autre, de vous bénir l'un l'autre par le bien-être et le plaisir que vous pouvez vous donner, et ensuite prier ensemble, avoir une intimité à un niveau impossible autrement, et uniquement avec la personne choisi dans les liens du mariage, parce que vous vous êtes donné uniquement à Dieu, right? Vous ne courez pas à gauche puis à droite. Aujourd'hui, vous êtes chrétien, demain, vous allez être bouddhiste, dans 3 semaines, vous allez être musulman, puis là, quand ça va venir le temps du ramadan, vous ne serez plus musulman, vous allez devenir d'autres choses. Est-ce que c'est ça qu'on fait en tant que chrétien? Mais non. Pourquoi on ferait la même chose? Et là, on peut aller plus loin. Vous savez, comment j'applique l'Évangile à ma sexualité? J'aimerais vous dire qu'on est tous dans le même combat. J'aimerais vous dire que peu importe où vous êtes, le pardon est disponible en Jésus. La guérison est disponible en Jésus. Et lui seul peut restaurer nos cœurs. La parole de Dieu demande à l'homme et à la femme de se garder parce qu'on veut se garder pour notre Dieu. On ne veut pas se donner à d'autres dieux. J'aimerais vous dire que si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu compare la vie sexuelle à l'idolâtrie. Et donc, une bonne vie sexuelle comparée à la vie de prière. Et là, on réalise de plus en plus, j'espère ce matin avec moi que vous êtes capable de réaliser de plus en plus comment Dieu veut que les croyants aient une sexualité victorieuse, agréable, centrée sur lui. Afin que on puisse être une vraie image, autant que possible, de ce qui s'en vient. Et peu importe où on est, peu importe si vous avez des difficultés, vous avez fait des erreurs, vous avez des besoins, et là, vous ne comprenez pas, vous avez de la difficulté, sachez que Dieu restaure les cœurs. Sachez que Dieu guérit les blessures. Sachez que vous pouvez lui faire confiance. Lui ne vous abandonnera pas. Lui ne vous utilisera pas. Jésus ne sera jamais abusif avec vous. Jésus vous aime comme ou même plus qu'un mari aime sa femme ou qu'une femme aime son mari. On est appelé à tous combattre le même combat et j'aimerais vous amener quelques éléments pratiques pour celui qui lutte. Certains points. Confessez. Trouvez quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance, un pasteur, un ami chrétien de longue date, et confessez vos péchés. Pourquoi? Parce que Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés si nous les confessons. On a besoin de nos frères et sœurs pour nous amener au pied de la croix. Tout seul, vous allez peut-être sombrer sous le poids de la honte. Mais confessez vos péchés. Ensuite, le deuxième point, c'est détruisez ce qui vous fait tomber. Et là, je suis intense, parce que Jésus est intense. Si vous allez dans le sermon sur la montagne, si ton œil est pour toi une occasion de chute, ferme-le. Right? Mais non. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est préférable pour toi d'entrer dans le royaume avec seulement un œil que de brûler dans le feu de la géhenne avec tes deux yeux. Si ta main est pour toi une occasion de chute, mets-la dans ta poche. Non, coupe-la, car il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume avec une seule main que de brûler dans la géhenne avec tes deux mains. Détruisez, débarrassez-vous de ce qui vous fait tomber. Et là, on est intense. Jette ton téléphone, achète-toi un flip, installe un programme qui va te protéger de toi-même. Sois redevable. Troisième point. Redevable, supportez-vous les uns les autres. Trouvez quelqu'un qui va te poser la question « Comment ça va dans ta sexualité? » Et là, tout le monde est mal à l'aise. Trouvez quelqu'un qui sera capable de venir te voir et te dire « Comment ça va, toi, dans ta sexualité? Comment ça va avec ta femme? Comment ça va dans ton célibat? Comment ça va? As-tu besoin d'aide? Est-ce qu'on peut prier ensemble? » L'Église est là pour se supporter. Et sachez-le, si vous avez des luttes, vous n'êtes pas seul. Si c'est difficile, vous êtes en questionnement, vous n'êtes pas seul. Dieu veut que vous sachiez que vous êtes entouré de frères et sœurs qui peuvent vous encourager. Et le dernier point, armez-vous de la parole de Dieu. Vous savez, pour les Juifs, il y avait une façon de combattre le encore une fois, j'ai un anglicisme dans la tête. Le lost, aidez-moi. La convoitise, merci. Excusez l'anglicisme. La convoitise, il y avait une façon qu'ils ont faite, savez-vous c'est quoi? À partir de 13 ans, les jeunes hommes sont requis d'apprendre Proverbes 1 à 13 par cœur. Et les jeunes femmes sont censées apprendre le Cantique des Cantiques au complet par cœur. Le but était de cacher la parole dans ton cœur. Afin que quand l'épreuve arrivera, tu sois capable de te défendre. Et on est vraiment appelé à vivre ça pleinement. Cachez la parole de Dieu dans vos cœurs. Apprenez-la par cœur. Parce que le jour où l'ennemi va arriver, il va vous attaquer. Il va s'en prendre à la parole de Dieu. Il va vous faire questionner la parole de Dieu. Apprenez-la. Et il y a plein de façons. Mais armez-vous de la parole de Dieu. Faites confiance à l'Esprit-Saint, apprenez-la par cœur, cachez-la dans votre cœur. Et j'aimerais terminer et...
Jean-Olivier, c'est Éphésiens 6. Revêtissez-vous de l'armure divine, des armes.
Oui. De
Éphésiens 6, la parole, c'est l'épée.
Éphésiens 6, ça pourrait être votre référence, merci. Et j'aimerais terminer avec ceci, les musiciens, vous pouvez monter, dans le mariage, spécialement dans la sexualité. Nous sommes, en tant que croyants, un témoignage puissant que Dieu est bon et que de plus grandes choses sont promises à ceux qui croient. On est vraiment appelé à être un témoignage. Et je sais que pour plusieurs, c'est pas facile. On a tous des luttes. Mais pourquoi est-ce qu'on lutte à ce point-là? Parce que la corruption de la sexualité est puissante, parce qu'elle détruit l'image que Dieu nous donne. C'est à nous de lui redonner sa valeur et de la célébrer. pour la gloire de Dieu. On n'a pas à vivre dans la honte. Une fois marié, on a à chercher notre époux, notre épouse, son plaisir, son bonheur. On a le droit, on est appelé à courir vers la personne aimée, vers la personne avec qui je suis en alliance. Je suis appelé à pouvoir exprimer aux gens autour de moi que Dieu m'a donné ce cadeau-là afin que je puisse le glorifier, l'aimer. Parce que sans ça, j'aurais rien qui peut me permettre de voir, de croire et de comprendre un petit peu ce qui m'attend. Et je sais que ça va être encore mieux, encore plus grand et encore meilleur. Amen.
Amen.
Prions. Seigneur Jésus, merci d'être un Dieu bon. Merci d'avoir créé le mariage. Merci de nous avoir créés en tant qu'êtres sexuels. Merci de nous avoir donné un chemin à suivre, Seigneur, afin de pouvoir expérimenter les bonnes choses que tu as en réserve pour nous. Merci de ce que c'est un clin d'œil, une image des choses à s'en venir. Aide-nous, Seigneur, à la garder. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir proclamer haut et fort que c'est une bonne chose, que tu l'as créée, que tu veux que nous puissions en profiter dans notre couple, dans le mariage, afin d'être un témoignage puissant. Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qui se questionnent. Peut-être que ça n'a pas répondu à toutes les questions, mais Seigneur, que ton esprit parle, que quelque chose puisse se produire dans nous, dans nos cœurs, dans nos têtes, afin qu'on puisse comprendre de plus en plus ton amour et ta grâce, les bien-être que tu veux pour nous. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni et glorifié dans nos vies. Seigneur, que la pureté soit ce qui vient identifier cette Église. Seigneur, que chacun et chacune d'entre nous, on puisse aller au pied de la croix, ensemble, et apporter nos frères et sœurs qui luttent, nos propres douleurs, nos propres souffrances, afin d'y trouver du repos. Seigneur, qu'on puisse exercer à utiliser la parole de Dieu pour nous protéger et nous garder. Seigneur, que tu puisses vraiment faire que dans notre vie, on puisse te glorifier avec toutes choses. On veut se rappeler, Seigneur, ce matin, que la sexualité est à propos de toi. Qu'une bonne sexualité chrétienne, Seigneur, va te rendre gloire. Qu'une bonne sexualité chrétienne va être un témoignage puissant. Et Seigneur Jésus, que tu puisses fortifier, aider les couples. Que ça aille bien ou mal, Seigneur, qu'on soit toujours sur nos gardes, qu'on soit toujours en train de se protéger l'un l'autre. Et Seigneur, qu'on puisse être à l'image de Christ, à l'image de toi, qui a tout abandonné, qui est mort pour nos péchés, afin de nous donner une vie qu'on ne pouvait pas avoir sans toi. Seigneur, merci pour toutes ces choses. Sois béni et glorifié ce matin. Ces choses, on les a priées dans le nom de Jésus. Et que l'Esprit en nous dise Amen.